Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Ce matin, nous parlons du papillomavirus humain, virus responsable quand il n'est pas éliminé par l'organisme de certains cancers. Le plus connu, celui du cancer du col de l'utérus, qui provoque aujourd'hui en France plus de 3000 cancers chez les femmes, dont 1000 décès. La prévention du cancer du col de l'utérus repose sur la vaccination, mais de nombreux gynécologues déplorent le manque de vaccination en France, alors que dans certains pays comme l'Australie, l'Angleterre, la Suède, ils ont réussi à diminuer de façon notoire le nombre de nouveaux cas en vaccinant plus de 80% des jeunes filles et 75% des garçons. Et oui, les garçons sont aussi concernés par le papillomavirus et on en parle peu. Alors avec nous au téléphone de la radio africaine ce matin, le docteur Karine Davidian, merci d'être avec nous. Docteur, vous êtes gynécologue et responsable du centre de santé sexuelle à l'hôpital Boujon, c'est à Clichy dans le 92. Merci beaucoup docteur d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également Emmanuel Ricard de la Ligue contre le cancer. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les HPV ou papillomavirus humains sont des petits virus qui sont présents dans l'organisme de chaque homme et chaque femme, présents notamment au niveau de la peau, mais aussi au niveau des muqueuses génitales. Elles sont très fréquentes et se transmettent lors des contacts sexuels. Alors tout d'abord, docteur, il existe 150 types environ de papillomavirus humains, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Il existe de nombreux types de papillomavirus humains. Alors tous ne sont pas voués à donner le cancer du col, heureusement. Il y a des virus oncogènes qui, eux, peuvent être amenés à donner le cancer du col de l'utérus chez certaines femmes. Et des virus non oncogènes qui, eux, sont responsables de l'apparition de verrues génitales, qu'on appelle nous condylomes, qui sont des petites excroissances qui peuvent apparaître au niveau de la peau chez les hommes et chez les femmes.
Alors, on parlait donc on donnait quelques chiffres, hein. Le cancer du col de l'utérus provoque aujourd'hui en France plus de 3000 cancers chez les femmes, dont 1000 décès. Est-ce que ces 1000 décès sont principalement des cas qui ont été diagnostiqués trop tard, docteur ?
Oui, très souvent, malheureusement, ce sont des cas qui sont diagnostiqués très tard, puisque je rappelle que le cancer du col de l'utérus ne donne pas forcément de symptômes. Les symptômes les plus fréquents sont des saignements au moment des rapports sexuels ou des douleurs au niveau du bas-ventre. Mais lorsqu'on arrive à ce stade-là, on sait déjà que le cancer est avancé.
Alors, on dit qu'il touche les femmes, mais aussi les hommes. Et pourquoi on en parle si peu ?
Eh bien, probablement parce que chez les hommes, on a beaucoup moins de cas de cancer, même si on peut en avoir au niveau du pénis, c'est possible, mais beaucoup, beaucoup moins souvent que le cancer du col de l'utérus, puisque chez les hommes, ce qu'on appelle la clairance, c'est-à-dire le fait que l'homme puisse se débarrasser naturellement de ce cancer, est plus importante que chez la femme. Il ne stocke pas aussi souvent le papillomavirus que la femme peut le faire. Je pense que c'est pour ça.
Alors, un mot peut-être, Emmanuel Ricard ?
Oui, enfin, il y a d'autres types de cancers que les cancers gynécologiques. Et on se rend compte, en particulier dans les études qui sortent maintenant, où on recherche la présence du virus papillomavirus dans les cancers ORL, qu'on a une augmentation de la fréquence des cancers de la gorge qui serait due à justement ce papillomavirus.
Oui. Alors
on met ça en relation avec un changement des pratiques sexuelles, en particulier le développement de la fellation. Mm-hmm. Et il n'y a pas que les cancers de la sphère génitale, que ce soit le pénis, le vagin, le col de l'utérus ou l'anus, qui sont en relation avec ce papilloma.
Un mot peut-être, docteur ?
Oui, tout à fait. On voit l'émergence de cancers ORL qui sont dus au papillomavirus chez les hommes et chez les femmes, qu'ils soient immunodéprimés ou non. Et ça va devenir bientôt un réel problème de santé publique, sachant que ces cancers bientôt vont être supérieurs, si on en croit les statistiques, aux cancers ORL dus au tabac et à l'alcool.
Alors, nous avons tourné un petit micro-trottoir dans les rues de la capitale sur le sujet. On écoute et on se retrouve juste après.
c'est une maladie qui touche beaucoup les femmes et que souvent quand il est assez tôt détecté, ben, il peut être assez bien soigné. Je sais qu'on fait le dépistage assez souvent et on le fait avec notre gynécologue. Quand on est sérieux, mais normalement, c'est assez vite détecté, mais je ne saurais pas vraiment confirmer. Je ne savais même pas qu'il y avait un vaccin pour cette maladie, en fait.
J'ai déjà entendu parler du papillomavirus, mais maintenant, que ce soit ce virus-là qui cause le cancer, ben, vous m'apprenez quelque chose, en fait. J'ai pas vraiment eu de vraies informations là-dessus, quoi. Même les médecins ne nous ont pas parlé. Mon médecin m'en avait pas parlé forcément à l'époque.
Papillomavirus, non, ça me dit rien. J'ai entendu parler du cancer du corps d'utérus, mais je ne sais pas comment on attrape ça. Je ne pense pas qu'il y a un vaccin pour ça.
Le papillomavirus, c'est une infection qui s'attrape au niveau du col de l'utérus. C'est une infection du papillomavirus, c'est comme ça que ça s'appelle, qui peut s'attraper par toutes sortes d'infections, par des rapports sexuels, parce qu'elle est contagieuse, la maladie. Donc, il faut se faire dépister pour savoir. À partir de 18 ans, il faudra aller voir un gynécologue ou à l'hôpital pour se faire dépister. Ça peut créer le cancer du col de l'utérus.
Un petit mot, une petite réaction sur les connaissances des personnes rencontrées dans la rue. Docteur, comment ça vous fait réagir?
On voit que c'est très variable. Hein. Il y a quand même une ou deux personnes qui nous ont bien expliqué que c'était contagieux, que ça s'attrapait bien par les rapports sexuels. D'autres qui n'en savent rien du tout.
Oui.
Et effectivement, c'est du rôle du médecin, mais aussi de toutes les campagnes de vaccination, de créer des réelles campagnes juste sur ce papillomavirus et non pas globale, en englobant le papillomavirus avec d'autres virus.
Oui. Un mot, peut-être, Emmanuel Ricard?
Oui, mais je laisserai la gynécologue compléter. On a beaucoup insisté sur les rapports sexuels. Or, la caractéristique de ce papilloma, c'est qu'il peut aussi être porté par les mains et par les serviettes ou les linges de corps.
Oui.
Donc, il faut faire attention parce qu'on pense que si on utilise un préservatif, on est complètement couvert, entre guillemets. Or, la caractéristique de ce virus, c'est que il faut compléter ça par les autres mesures d'hygiène, en particulier ne pas échanger ses serviettes et linges de corps. Et même dans la manipulation du préservatif, en le développant, en le posant,
oui,
on peut, s'il y a eu des attouchements avant, véhiculer sur la partie externe du préservatif la présence du papilloma.
Alors docteur, environ 80% de la population rentre en contact dans sa vie avec le virus, et notamment au tout début des relations sexuelles. Alors on recommande la vaccination, c'est l'un des moyens de prévention, en tout cas les plus efficaces, aux jeunes filles de 11 à 14 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on est vulnérable au tout début de sa vie sexuelle?
Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on est en contact avec les premiers papillomavirus. Et si on rencontre au moment de sa vie sexuelle les papillomavirus oncogènes, ce qui peut se faire très facilement, puisqu'on a une grande partie de la population qui est porteur de ces virus, sans qu'ils ne soient forcément symptomatiques, hein, ils ne présentent aucun symptôme. Donc le simple contact, comme on le disait, qui n'est pas du tout protégé par le préservatif, peut nous permettre d'acquérir ces virus qui peuvent soit rester à l'état quiescent, c'est-à-dire endormis dans nos cellules pour toute notre vie, ou bien qui peuvent à un moment se révéler et provoquer des lésions précancéreuses et plus tard le cancer.
Alors près de 500 000 nouveaux cas sont détectés dans le monde tous les ans et 250 000 décès sont liés à ce type de cancer. Alors nous avons recueilli le témoignage de Harvey Bisivikidi, il est étudiant en dernière année de médecine à l'université Congo Kisantu, c'est en RDC. Il est aussi responsable d'une association qui fait de la prévention contre le cancer du col de l'utérus. On l'écoute et on se retrouve juste après.
Ce qui nous a motivé de monter cette structure, c'était d'abord ce faible niveau de connaissances. Déjà moi, avant, je n'étais pas au courant qu'il existait un groupe de virus qu'on appelait virus de papillomes humains et qui était aussi un virus sexuellement transmissible. On a vu que c'était intéressant de pouvoir faire part de cela aussi aux autres jeunes. C'est alors qu'on a commencé à travailler, on est arrivé à monter cette structure. Nous passons dans différentes écoles et comme on peut l'imaginer dans toutes les structures où nous sommes passés. Quand poser les questions aux élèves de savoir s'ils étaient au courant qu'il existait un virus sexuellement transmissible qu'on appelait le virus papillome humain, aucun de ces élèves ne répondait favorablement. Par contre, quand on demandait s'ils connaissaient quand même le cancer de col de l'utérus, sur 100% et environ 40% des élèves qui étaient au courant du cancer du col de l'utérus. De même aussi, quand nous sommes passés dans certaines maternités de la place, la même problématique revenait. C'est depuis 2014 que nous avons commencé. D'abord les réseaux sociaux pour sensibiliser les internautes. En dehors de l'objectif de sensibiliser, on fait aussi un plaidoyer pour qu'on puisse mettre à disposition des jeunes, surtout les vaccins. En termes de vaccination, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les parents qui sont pour cela, c'est aussi un frein à cela. Nous insistons beaucoup plus sur l'aspect préventif, d'éviter surtout d'avoir des rapports sexuels tôt et non protégés. C'est vraiment dans cet aspect-là que nous intervenons en termes de gènes. Et puis chez les femmes enceintes, nous encourageons beaucoup plus l'aspect de se faire dépister à temps. Dans notre région, jusque-là, il n'y a pas des études qui sont vraiment faites dans le domaine. Et on est en train de travailler même avec un professeur sur ça pour essayer de voir ce que nous pouvons faire.
On voit bien donc l'importance de la sensibilisation, de l'information, prévenir très tôt au niveau des collèges même. Ça fait partie d'ailleurs d'une des propositions des premiers états généraux de la prévention des cancers où était présente la Ligue contre le cancer. C'était le 21 novembre dernier. Et l'une des propositions, Emmanuel Ricard, c'est de proposer systématiquement la vaccination aux garçons et aux filles et de la proposer au collège, une vaccination qui doit être, selon toujours ces propositions, gratuite ou prise en charge à 100%.
Oui, alors il y a, vous insistez sur différents aspects. Donc le premier aspect, c'est garçons et filles, puisque aujourd'hui la vaccination, elle est demandée pour les filles et elle est conseillée pour les garçons qui ont des relations avec les autres garçons. Or, c'est très difficile à mettre en place puisque les jeunes, puisqu'on essaie de faire cette vaccination le plus tôt possible avant les premiers rapports, les jeunes ont souvent une indécision par rapport à leurs orientations sexuelles et c'est difficile de dire oui à son médecin, je pense que je suis homosexuel, est-ce que vous pourriez me vacciner? Donc on pense que cette mesure est très difficile à mettre en place. Ensuite, on ne voit pas pourquoi, dans la mesure où dans les relations hétérosexuelles, ça se passe entre un garçon et une fille, la diminution de la probabilité de rencontrer le virus papillomavirus, oui, elle va se faire si l'un au moins des deux partenaires est protégé par un vaccin. Donc, en vaccinant que les filles, on leur supprime la chance de rencontrer un partenaire vacciné.
Oui.
Et qui serait protecteur. Donc la protection, elle va dans les deux sens. Les filles protègent les garçons protègent les filles dans les rapports hétérosexuels. Donc on pense que ça n'a pas de sens aujourd'hui de limiter à une protection individuelle, mm-hmm, et pas envisager ça sous la forme d'une protection collective. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faudrait vacciner les garçons et les filles. Et on voit que dans les pays qui ont mis cette mesure sur les deux sexes, on a une amélioration plus importante en termes de diminution de la fréquence des lésions, en particulier les lésions précancéreuses. Donc on pense que c'est ça qu'il faut pousser. Après, il y a la question du prix. Le prix du vaccin est assez cher puisque c'est 135 euros la dose,
ouais,
qu'il faut, selon le type de vaccination qu'on fait, si c'est tôt, c'est au moins 2 doses, si c'est une vaccination de rattrapage, c'est 3 doses, ça fait quand même un investissement qui peut être important et le facteur prix est un facteur limitant puisque la sécurité sociale ne prend pas tout en charge et tout le monde n'a pas une mutuelle pour être couvert.
Alors justement, pour le cas de l'Afrique, c'est Ousmane qui nous rejoint au téléphone rapidement. Alors la question, Ousmane, c'est est-ce qu'en Afrique, le cancer du col de l'utérus est aussi important qu'en France? Docteur Karine Davidson, vous voulez répondre à cet auditeur?
Oui, eh bien, c'est un petit peu difficile de répondre puisque je ne sais pas si comment se passe le dépistage en Afrique. On sait qu'en France, on demande aux patientes de faire des frottis. Cependant, on sait qu'elles sont très, très réticentes pour certaines à venir voir le gynéco ou la sage-femme. Et puis surtout, même si elles viennent, le frottis ne dépiste pas 100% des lésions précancéreuses. Donc je ne sais pas si en Afrique on a le même type de dépistage. Est-ce que tous les cancers sont diagnostiqués? Donc je ne peux pas donner de chiffres là pour ça.
Emmanuel Ricard, peut-être que vous en savez un petit peu plus.
Si on voit que dans les pays Asie et Afrique, il y a en tout cas une fréquence beaucoup plus importante du cancer du col de l'utérus. C'est dû, je dirais, au moindre accès, même si les campagnes contre le VIH ont favorisé l'accès aux préservatifs et tout ça. Mm-hmm. Mais on a aussi une corrélation entre l'immunodéficience, donc le sida, et le risque de cancer du col. Et comme on sait que ces pays ont beaucoup été atteints par l'épidémie de sida, on a une synergie entre l'épidémie de sida et l'épidémie des papillomas et des cancers du col de l'utérus. Donc il y a des chiffres beaucoup plus importants. Et c'est vrai que les moyens sur le dépistage, même si on a amélioré avec des techniques, je dirais, plus facile avec la détection avec des solutions acides des lésions au niveau du col, on a essayé de rendre ça plus moins cher et plus facile d'accès pour les populations. Il y a de gros travaux à faire encore en termes d'accessibilité.
Alors, parlons à présent de la vaccination en France. Elle est préconisée pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Pourquoi est-ce qu'on la rend pas obligatoire, cette vaccination, docteur?
Eh bien, parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe en ce moment au niveau de la vaccination en France. Hein. On a des parents qui sont même réticents à vacciner leurs enfants contre la rougeole et actuellement, on meurt à nouveau de la rougeole. Donc, les parents sont assez réticents à vacciner leurs jeunes filles puisque pour eux, c'est un laissez-passer pour avoir un rapport sexuel.
Ouais.
C'est ce qu'on nous répond. Donc, initialement, le vaccin était fait un petit peu plus tard. On allait jusqu'à 17 ans, donc c'était la période de l'adolescence.
Ouais.
Donc on a baissé l'âge de 11 à 14 ans, d'une part, parce qu'on sait que déjà le premier rapport sexuel, en général, c'est 16-17 ans, la moyenne, hein, pour les filles en France. Donc on se dit qu'on les aura avant les premiers rapports sexuels, mais aussi pour désexualiser cette vaccination aux yeux des parents.
Alors, deux ou trois injections sont nécessaires en fonction du vaccin utilisé et de l'âge. Alors, expliquez-nous un peu comment se passe la vaccination.
Le vaccin, donc deux injections entre 11 et 14 ans, trois injections au-delà et jusqu'à 19 ans. Donc, c'est un vaccin qui est remboursé à 65% par la Sécurité sociale.
D'accord.
Qui comprend quatre génotypes, qui est tétravalent. On a un vaccin qui est sorti qui englobe 9 sérotypes de papillomavirus. Et ces vaccins se font soit par le médecin, soit par une infirmière, tout simplement.
Alors, il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont sûrement des jeunes filles à la maison. Alors, c'est important de leur dire, allez sur Internet, il faut vous y intéresser et n'hésitez pas à faire vacciner vos jeunes filles entre 11 et 14 ans, docteur.
Oui, tout à fait. C'est aussi le rôle des médecins, des pédiatres également, puisque 11-14 ans, il y a encore des parents qui amènent leurs enfants chez le pédiatre.
Oui.
Donc c'est à nous aussi de proposer, de sensibiliser les parents sur ce vaccin.
L'autre raison pour laquelle on a déconnecté la vaccination de la période de la sexualité, c'est que il y a eu toute cette polémique avec la sclérose en plaques qui survient. Et la sclérose en plaques est une maladie qui entraîne des paralysies, hein, qui est une atteinte des nerfs. Et elle survient assez souvent aux alentours de 18, 20, 25 ans. Voilà. Mais elle survient quelles que soient les causes. Hein, et le problème, c'est que si on faisait une vaccination tardive, les gens mettaient en relation le fait qu'ils avaient été vaccinés quelques années avant avec la survenue de cette maladie. Or, les études qui ont été faites prouvent qu'il n'y a aucun lien entre ces deux maladies, la vaccination, donc le HPV, et le papilloma, et la survenue d'une sclérose en plaques. Néanmoins, les gens construisaient une relation simplement par la concomitance, le fait que les deux phénomènes étaient rapprochés dans le temps. Donc, on a éloigné la vaccination pour que les gens ne fassent plus une imputation de la sclérose en plaques vient de la vaccination.
Un mot, docteur ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Sclérose en plaques, comme plein d'autres maladies du même type, surviennent à ces âges-là. Donc le fait de pouvoir dissocier les deux ne va plus pousser à lier les deux événements.
Alors, les autres...
Et ceci nous permettra d'arrêter les polémiques, puisque on voit que dans les pays qui ont mis en place cette vaccination précoce, la polémique sur ces différents incidents, elle n'existe pas. Elle est purement française.
Alors, au téléphone, c'est Drissa qui nous rejoint. Bonjour Drissa.
Bonjour Asa. Bonjour tout le monde.
Alors, votre question, c'est est-ce qu'une mère peut transmettre le virus à son enfant à naître ?
Oui.
Docteur ?
Non, je rassure, la mère ne peut pas transmettre à son enfant. La seule chose pour laquelle on a vu une possible transmission, c'est lorsque la maman qui accouche par voie naturelle présente des lésions condylomateuses, des verrues génitales.
Oui.
Donc à ce moment-là, effectivement, lors du passage de la filière génitale par le bébé, on peut avoir une transmission au niveau oral, donc de l'enfant, qui peut développer des verrues au niveau ORL. Donc dans certains cas très poussés, où on a vraiment une condylomatose floride génitale, on peut être amené à proposer des césariennes pour cela.
Voilà, Drissa, pour la réponse. Alors justement, docteur, est-ce que lorsque l'on a une verrue génitale, on doit absolument consulter, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ?
Tout à fait, il faut consulter, on a différents types de traitements en fonction de l'étendue et de la localisation des verrues qu'on traite par destruction. Donc il faut tout à fait venir consulter son médecin traitant, le gynécologue pour la femme, l'urologue ou le dermatologue pour l'homme.
Alors rappelons également pour les jeunes femmes et les femmes de plus de 20 ans qu'il est important de faire un frottis cervical tous les 3 ans. C'est ce qui permet donc de détecter cette maladie et de pouvoir ensuite la traiter au plus tôt. Un mot sur le frottis tous les 3 ans, docteur ?
Oui, tout à fait. On préconise en dépistage de masse, donc le frottis à partir de l'âge de 25 ans et ce jusqu'à l'âge de 65 ans. Je rappelle que le frottis ne dépiste pas toutes les lésions précancéreuses, puisque c'est un examen de dépistage.
D'accord.
Et l'intérêt de le répéter tous les 3 ans va augmenter sa sensibilité. On est actuellement en train de travailler sur un autre test de dépistage qu'on voudrait faire passer donc au niveau de la santé. C'est carrément d'aller dépister directement la présence du papillomavirus à la place du frottis.
D'accord.
Donc ça, c'est encore un petit peu chaotique. On a des gynécologues experts qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais c'est encore une fois très souvent pour la raison du prix.
Plus d'informations sur internet vaccination-info-service.fr. Alors, Emmanuel Ricard, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ? Il reste juste 40 secondes.
J'aurais ajouté par rapport à l'intérêt du dépistage, la surveillance des lésions et le traitement au niveau des lésions précancéreuses, ça permet aussi de préserver le col de l'utérus, de pas avoir à le retirer s'il y a un cancer. Et on sait que le fait de préserver le col permet de préserver la fertilité et préserver ensuite, une bonne grossesse, puisque si on retire le col, il y a plus de menaces d'accouchement prématuré. Donc, pour avoir des enfants, c'est bien de se faire suivre.
Merci à tous les deux. Merci. L'émission sera en podcast dans quelques minutes sur nos réseaux.
Ah, on appelle ça boycottage. Hein. En plein milieu de la chronique, il y a un écran pub. Aucun technicien vient me voir. Bon, peut-être on m'a boycotté. Mais bon, on continue. Il n'y a pas de technicien ici dans la radio, là. Bon. Et bizarrement, donc je disais à Issa, bizarrement, hein, vous avez dit bizarre, oui, j'ai dit bizarre, et bizarrement à Issa, comme par hasard, comme de par hasard, voilà pas que Macron hein, s'organise un petit entretien en catimini avec Sarkozy, un petit déj, histoire de parler, de discuter, hein, de prendre quelques conseils. Bon, il aurait pu en prendre auprès de François Hollande, mais bon, il a préféré Nicolas Sarkozy. Et là, tu sors de là, de ce petit entretien, et hop, attentat. Place aux théories du complot en tout genre. Hein. Alors j'avoue, c'est chelou quand même. Hein. Bon, à peine Macron finissait son allocution, Issa, que hop, on nous parlait d'attentats, que hop, on nous parle d'état d'urgence, que hop, pauvres gilets jaunes qui ne pourront plus du coup manifester, et hop, pauvres gilets jaunes qui sont fâchés. Comment ne pas penser au complot, franchement? Alors les réseaux sociaux s'enflamment, bien évidemment, et en même temps, hein, bah, il y a eu des morts. À Issa, les gens sont trop unis. Ou du moins, ils l'étaient trop. Il fallait donc les diviser. Non, Fatou, tu ne peux pas dire ça. C'est pas moi qui le dis en même temps. Deux morts, Aïssa, un père de famille qui était donc venu boire un apéro avec sa femme et son fils, et un touriste thaïlandais de 45 ans qui était donc venu en couple avec deux amis. Un blessé, un garagiste d'une quarantaine d'années, un ressortissant afghan en état de mort cérébrale, et sept blessés aux dernières nouvelles, enfin en tout cas au moment où j'écrivais, triste bilan. Allahu Akbar, qu'il avait dit, hein, qu'il aurait dit, le dit terroriste fiché S. Encore un pseudo-musulman. Yako aux musulmans. Oui, parce que vous serez encore pointé du doigt. Les musulmans par-ci, les musulmans par-ça, par-là, et nanana naninia, la religion, et nanani nanana. Aïssa, pourquoi ils font ça?
Ah, en tout cas.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils s'en prennent aux plus faibles comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous font peur comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils tuent comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Honte à ceux qui pensent théorie du complot. Mais peut-on vraiment penser autre chose? Complot ou pas, en tout cas, quoi qu'il en soit, des gens sont morts. Alors peut-on vraiment accuser la République? Peut-on vraiment accuser Emmanuel Macron? Telle est la question. À demain.
C'est l'Africa numéro 1 avec Fatou Birama.
C'est l'Africa number 1.
Paraya Moloubole Yoma, Kokaya Moloubole Yoma, Kochamale Moloubole.
Afrique, 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 Afr